Vous écoutez, on lit pour vous.
En Ontario, les immigrants anglophones doivent attendre longtemps pour étudier le français. Un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine, paru le 6 août 2025 dans Le Devoir. Apprendre le français comme langue seconde a la cote chez les nouveaux arrivants en Ontario. Mais ceux qui veulent s'initier à la langue de Molière dans des régions anglophones peuvent devoir attendre plusieurs mois avant d'obtenir une place dans un cours subventionné, note le YMCA de la région de la Capitale-Nationale. Sans chiffrer précisément ce temps d'attente, Sébastien Martin, directeur des services à l'emploi au YMCA de la région de la Capitale-Nationale, affirme que les délais pour qu'un nouvel arrivant obtienne une place dans un cours de français de langue seconde sont importants. Il faut parfois attendre de 6 à 7 semaines pour seulement effectuer l'évaluation initiale obligatoire des compétences linguistiques, un service qu'offre le YMCA. C'est pas une affaire comme « tu fais ton évaluation, puis la semaine prochaine, t'es dans un cours de français », explique M. Martin. Le processus complet prend de plusieurs semaines à plusieurs mois, dit-il. La plupart des personnes qui cognent à la porte du YMCA ne parlent ni le français ni l'anglais à leur arrivée. D'autres, déjà à l'aise en anglais, souhaitent apprendre le français pour augmenter leurs chances de décrocher un emploi, notamment dans la fonction publique. N'importe quelle carte que tu peux avoir de plus dans ton jeu, vas-y, résume M. Martin. À Ottawa, où les services en français sont bien implantés, parler les deux langues officielles est un net avantage sur le marché du travail, affirme-t-il. La demande dépasse donc largement l'offre. À Ottawa, le YMCA est le seul organisme chargé des évaluations linguistiques nécessaires à l'inscription aux cours subventionnés. Ces trois sites fonctionnent à plein rendement et ces listes d'attente sont pleines. Évaluer, puis attendre. Le parcours d'un nouvel arrivant pour intégrer un cours de français subventionné commence par une inscription auprès de l'organisme afin d'obtenir un rendez-vous d'évaluation linguistique. Lors de cette rencontre, ses compétences orales, écrites et de compréhension en français sont mesurées selon les normes du Centre des niveaux de compétences linguistiques canadiens. Ces résultats détermineront ensuite à quel cours il pourra s'inscrire. Mais rien ne garantit une inscription immédiate une fois cette évaluation faite. Car les cours de français de base, niveau 1 à 5, qui accueillent des personnes sans connaissance de la langue, sont prioritaires. Un nouvel arrivant ayant déjà une certaine maîtrise du français devra donc attendre davantage pour accéder à des cours plus avancés et offerts moins fréquemment. Le financement de ces cours de français provient en partie du gouvernement fédéral par l'entremise du programme CLIC, cours de langue pour les immigrants au Canada, auquel s'ajoutent parfois des contributions provinciales ou municipales. L'offre varie donc considérablement d'une région à l'autre. Un système peu structuré. Puisque le système d'immigration ontarien repose sur une série d'acteurs locaux, comme les municipalités, les commissions scolaires et les organismes communautaires, l'enseignement des langues officielles tombe souvent au second rang des préoccupations, explique Christina Clark-Kazak, professeure à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Contrairement au Québec, où la francisation est centralisée sous la responsabilité de l'État, l'Ontario ne dispose pas d'un programme provincial structuré. Ce n'est pas aussi bien organisé qu'au Québec, constate-t-elle. Cet état de fait nuit d'ailleurs à l'intégration des personnes immigrantes, en particulier lors des premières semaines suivant leur arrivée, selon elle. Si on veut que les villes puissent répondre comme il faut avoir des ressources financières et humaines, soutient la professeure Clark-Kazak. Et les organismes ne disposent pas toujours du personnel nécessaire pour orienter les nouveaux arrivants vers les services linguistiques, juridiques ou sociaux dont ils ont besoin, note-t-elle. c'était « En Ontario, les immigrants anglophones doivent attendre longtemps pour étudier le français », un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine, paru le 6 août 2025 dans Le Devoir.
Un engouement qui stagne. 20 ans du mariage gay. Un texte de Samuel Larochelle, paru le 10 août 2025 dans La Presse. Il y a 20 ans, le mariage entre conjoints de même sexe a été légalisé au Canada. Les personnes LGBTQ+, de la génération Y, ont donc commencé leur vie adulte en ayant le droit de se marier, tout comme celle de la génération Z qui a suivi. Malgré l'accessibilité de l'institution, l'engouement stagne depuis quelques années, comme dans la population générale. En 2005, 451 couples de même sexe se sont mariés au Québec, selon l'Institut de la statistique. 10 ans plus tard, ils étaient 600. En 2023, on en dénombre 730. Ça a monté tranquillement et ça s'est stabilisé autour de 700 dans les dernières années, explique la sociologue Lynn Chamberlain. Michel Doré souligne à quel point la loi adoptée en juillet 2005 a été une avancée importante pour les membres de la communauté. Elle reconnaît les couples de même sexe comme étant égaux, explique le sociologue. C'est un changement culturel très significatif au pays. Au-delà du mariage lui-même, la loi reconnaissait ainsi les droits des conjoints. Auparavant, même si la charte interdisait la discrimination en fonction de l'orientation sexuelle, les personnes LGBTQ+, ne pouvaient pas visiter leurs conjoints malades dans les hôpitaux, car elles n'étaient pas reconnues, explique Mme Chamberlain. La famille d'un défunt pouvait reprendre possession de tous ses biens, car son conjoint n'était pas reconnu. Le vent a tourné à l'été 2005. Dans ses classes à l'université, Michel Doré a rencontré chaque année des jeunes LGBTQ+, qui s'étaient mariés. « Chez les hétéros, dit-il, ils se marient simplement parce qu'ils s'aiment. Le mariage est aussi une grosse fête. Les gens sont heureux de vivre cet événement devant des proches qui reconnaissent la légitimité de leur amour. » Même si le mariage a toujours été un acquis pour les personnes LGBTQ+, issues des générations Y et Z, les jeunes, en général, se marient de moins en moins, souligne Lynn Chamberlain. Hétéro ou gay, le mariage n'est pas une institution aussi importante qu'avant. Particulièrement au Québec, où presque la moitié des familles sont formées de parents non mariés. En 2023, on dénombrait 22 688 mariages en tout dans la province, soit 730 unions même genre et 21 958 unions genre différents. Un chiffre à peu près stable depuis 20 ans, selon l'Institut de la statistique du Québec. Par ailleurs, selon l'étude sur les idéaux intimes et amoureux au Canada, faite par Chiara Piazzesi et Martin Blais, 55 % des adultes LGBTQ+, sont en relation intime, ont indiqué l'exclusivité romantique comme leur idéal, comparativement à 91 % des adultes hétéros. Par contre, c'est moins le cas des femmes lesbiennes, qui sont plus attachées à l'idéal traditionnel au niveau romantique et sexuel, précise Lynn Chamberlain. Selon elle, les personnes LGBTQ+, sont souvent plus enclines à considérer les relations non monogames consensuelles. Plus tu remets en question les normes, les catégories de genre homme-femme et les orientations sexuelles traditionnelles, plus tu es susceptible de mettre de côté la monogamie et le mariage. Qu'en disent les Y et les Z? Les personnes LGBTQ+, nées depuis le début des années 1980, ont rapidement ou toujours eu accès au mariage. Leur intérêt pour l'institution est toutefois variable, d'après ce que la presse a observé. En relation depuis 13 ans, Jonathan Bécotte a ressenti une joie inespérée en se faisant demander en mariage par son amoureux en juin 2025. Plus jeune, je voyais ça dans les films et dans les livres, mais je n'ai jamais pensé ça accessible parce que c'était réservé aux couples hommes-femmes. Alors, de voir quelqu'un que tu aimes plus que tout poser son genou devant toi et demander de partager le reste de ta vie, c'est emprunter une histoire qui n'a jamais été possible pour moi pendant longtemps. Mélodie Noël Rousseau, en relation depuis 9 ans, décrit le mariage comme un héritage de la religion et du patriarcat, tout en reconnaissant les droits acquis grâce à la loi sur les mariages gays. « Dans ma vie personnelle, dit-elle, je me suis fiancée il y a quelques années, mais la pandémie a brisé nos plans. Qui sait, peut-être qu'on va se marier dans le futur. » Ça reste une des dernières traditions qui fait que tout le monde met sa vie sur pause pour célébrer l'amour. Ce n'est pas rien. Bernard Lavallée ne croit pas que le mariage aurait un effet sur la légitimité de sa relation de 18 ans. Me marier n'ajouterait rien de plus. Cela dit, je suis content qu'on ait ce droit-là et que ceux qui ressentent le besoin de se marier puissent le faire. Autour de moi, je ressens moins l'attrait du mariage, tant chez les gays que chez les hétéros. C'est peut-être une question générationnelle. Des raisons utilitaires ont poussé Sophie Jacquelin à se marier avec sa conjointe de nationalité française. On habitait en Colombie et elle n'avait pas moyen de rentrer au Canada, sauf avec un visa de touriste. Si on se mariait et qu'elle se faisait arrêter à la frontière, on se disait que ce serait peut-être plus crédible de dire « ma femme est de l'autre côté que ma blonde ». Par ailleurs, elle prévoyait déménager en France où, en 2019, la loi reconnaissait légalement la mère qui portait l'enfant, alors que la partenaire qui ne le portait pas n'était pas reconnue comme deuxième parent. Comme on voulait des enfants, on s'est marié pour que ce soit fait plus tard. Depuis, la loi française a changé. Le mariage est la célébration ultime de l'amour, selon Maxime-Ève Gagnon, en couple depuis 1 an. Ce sont deux personnes qui se choisissent autant dans le bien que dans le mal. C'est une liaison qu'on a envers nous, envers nos cœurs et envers l'éternité. C'est très important que ce soit possible pour nous. C'est une célébration de l'amour qui va au-delà des genres. C'est deux âmes qui se choisissent. C'était un engouement qui stagne, 20 ans du mariage gay. Un texte de Samuel Larochelle, paru le 10 août 2025 dans La Presse.
La nature en pleine ville à Verdun, un texte de Marco Fortier paru le 7 juillet 2025 dans Le Devoir. Quand on sort de chez nous par la porte d'en avant, on est en ville, mais par le balcon en arrière, c'est la campagne. Lionel Roscou nous reçoit dans son appartement en copropriété situé à 2 pas du fleuve à Verdun. Le père de famille, sa conjointe et leur fils de 14 ans n'ont pas besoin de chalet.
Ils ont l'impression de vivre en pleine nature, même s'ils habitent à 300 mètres de la très urbaine rue Wellington. Dès qu'on a visité le logement, on s'est dit « ici, c'est nous », raconte le Montréalais originaire du Guatemala, attablé dans sa cuisine. Par la fenêtre, on voit un terrain boisé. Des vélos passent sur la piste cyclable à quelques mètres du balcon. On entend des oiseaux chanter. L'air du fleuve se fait sentir jusqu'ici. La plage de Verdun se trouve à 5 minutes de marche. On a une énorme cour arrière, lance Léonel Orozco en souriant. C'est tout un écosystème. 113 espèces d'oiseaux ont été répertoriées dans le secteur, renchérit Fabien, l'adolescent de la famille, passionné de la faune ailée. La famille Orozco a quitté son pays natal pour venir s'établir à Montréal en 2016. Ils ont acheté leur appartement actuel, boulevard Lassalle, il y a 3 ans. Ils se sentent chez eux à Montréal malgré le déracinement, la langue. Ils parlent un français impeccable et l'apprentissage des coutumes, de la culture. « Je crois qu'on s'est bien adapté », résume Léonel Orozco, qui travaille dans le développement de logiciels. Lui et sa famille ont trouvé à Verdun l'endroit idéal pour faire leur nid. À 15 minutes à pied de l'école secondaire Monseigneur Richard, près de 3 stations de métro et donc du centre-ville, ainsi que d'une multitude de pistes cyclables et de tous les services, épiceries, pharmacies, soins de santé. « On n'a pas besoin de voiture », explique Léonel Orozco. La famille se déplace à pied, à vélo ou en transport en commun. Et pour sortir de la ville, ils sont abonnés à Communauto. Un grand terrain de jeu. Leur coup de cœur, c'est toutefois leur cour arrière qui s'étend à perte de vue. Le fleuve, la verdure, le vent. Les oiseaux surtout. Léonel et Fabienne tendent constamment l'oreille en parcourant leur terrain de jeu préféré. Sans même regarder, ils reconnaissent un merle d'Amérique, un cardinal, une mésange à tête noire, puis une autre espèce et une autre encore. 4 minutes après être sortis de chez eux, on se trouve sur un sentier en bordure du fleuve. En cette journée de canicule, le moindre espace près de l'eau est occupé par des Montréalais en quête de fraîcheur. Des gens se trempent les pieds dans l'eau, d'autres prennent une bière frette. Du reggaeton, qui semble tout droit sorti de Porto Rico, parvient à nos oreilles avant même qu'on arrive à la plage de Verdun. La bande de sable fin est bondée. Plusieurs centaines de personnes s'agglutinent dans ce vaste espace qui semble exigu. Léonel et Fabien Orozco s'intéressent davantage aux oiseaux, aux couleuvres et aux poissons qui peuplent les environs. Impossible de s'ennuyer avec ce terrain de jeu exceptionnel dans leur cour arrière. Fabienne peut parler en long et en large de la 40aine de variétés de parulines qui transitent par Montréal au printemps et à l'automne. « Quand elle passe par ici, c'est la fête », explique l'ornithologue amateur. Les arbres des alentours prennent vie sous l'impulsion de ces petits oiseaux colorés et hyperactifs. Fabien Orozco aime aussi observer les grands hérons et les aigrettes qui nichent près du fleuve. Ils volent vers l'est le matin pour aller se nourrir et reviennent au coucher du soleil. L'hiver, des canards se tiennent à leur tour sur le fleuve. Un autre type de faune. L'ornithologie est devenue un mode de vie chez les Orozco. Ils sont membres de la Société de biologie de Montréal. Ils assistent à des activités, à des conférences. Fabien adore se déplacer à pied ou à vélo vers des points chauds, propices à l'observation des oiseaux. Le parc George O'Reilly à l'ouest de Verdun, le parc des Rapides à La Salle et même le domaine Saint-Paul, aussi appelé le Boisé de l'île des Sœurs, de l'autre côté du fleuve. Au cours des dernières années, un autre type de faune a établi son habitat dans les espaces boisés des environs. Des personnes itinérantes érigent leurs tentes sur ces vastes terres. À l'été 2024, un campement a vu le jour juste devant l'immeuble où habite la famille Orozco, de l'autre côté de la piste cyclable. Ces infortunés voisins venaient recharger leur téléphone sur les prises de courant à l'extérieur du bâtiment. Parfois, ça parlait fort, même la nuit. La police est intervenue quelques fois. Cette année, les tentes se font plus discrètes, loin du regard des gens qui ont un domicile. Lionel Orozco est sensible au triste sort de ses concitoyens ayant perdu leur logement. Peut-être parce qu'il a lui-même vécu un déracinement. D'abord au Guatemala, en quittant sa ville natale à l'âge de 17 ans, puis en s'exilant en France et ensuite au Québec. On est chanceux de vivre ici, dans un pays en paix, dit-il. La vie est belle à Montréal, mais on doit prendre soin des gens qui ont moins de chance. C'était « La nature en pleine ville » à Verdun, un texte de Marco Fortier paru le 7 juillet 2025 dans Le Devoir.
Expo « La fierté à ses drapeaux », un texte d'Yves Lafontaine paru le 31 juillet 2025 dans le magazine Fugue. Longtemps invisibles, souvent marginalisées, les communautés gays, lesbiennes, bisexuelles et trans, LGBTQ+, ont dû, au fil des décennies et même des siècles, inventer leur propre code pour se reconnaître, se protéger, se rallier et, ultimement, exister. Ces symboles, parfois secrets, parfois flamboyants, ont joué un rôle crucial dans les luttes identitaires, politiques et culturelles des personnes queer. Du triangle rose au drapeau arc-en-ciel, en passant par le mouchoir de poche ou le labris, retour sur l'histoire de ces marqueurs de fierté et de résistance. Des codes clandestins à la résistance symbolique pendant des siècles, vivre ouvertement sa sexualité ou son genre en dehors des normes hétérocis imposées était dangereux, voire mortel. Dans ce contexte, les personnes LGBTQ+, ont créé des codes discrets pour signaler leur appartenance à une communauté qu'on ne pouvait pas encore nommer publiquement. Ces codes, qui peuvent être visuels, comme la mode, ou verbaux, servaient de signal pour identifier les personnes queer et indiquer parfois des préférences sexuelles spécifiques, tout en restant discrets pour éviter la dénonciation. Dans l'Europe du 19e siècle, certaines femmes lesbiennes adoptaient des accessoires masculins pour affirmer leur indépendance, canne, chapeau melon, tandis que des hommes gays utilisaient, dans les années 1970 et 1980, des mouchoirs colorés glissés dans la poche arrière, le fameux « hanky code » ou « code des foulards » pour exprimer subtilement leurs préférences sexuelles. L'un des symboles les plus lourds d'histoire est sans doute le triangle rose, imposé aux hommes homosexuels et à des femmes lesbiennes dans les camps de concentration nazis. Le triangle rose sera adopté dans les années 1970 comme symbole de mémoire et de lutte. Il rappelle que la fierté ne peut exister sans justice. Le drapeau arc-en-ciel, l'icône d'une révolution douce. En 1978, à San Francisco, le militant Harvey Milk commande au vétéran et artiste Gilbert Baker la création d'un symbole d'espoir pour la communauté gay. Le drapeau arc-en-ciel naît dans un esprit de paix, d'inclusion et de beauté. Chaque couleur représente un aspect essentiel de la vie : la sexualité, la lumière, la nature, l'harmonie. L'emblème devient mondialement reconnu et brandi dans tous les défilés de la fierté. Au fil du temps, plusieurs variations du drapeau sont apparues pour mieux refléter la diversité au sein de la diversité. Drapeau trans, bisexuel, lesbien, non-binaire, intersexe, asexuel. Chaque étendard est une affirmation. Nous sommes là, nous existons. Et nous méritons d'être vus et respectés. des symboles pour unir et différencier dans les années 1990 l'émergence de drapeaux spécifiques, comme ceux des communautés queer, ours ou encore le labrys pour les lesbiennes féministes, traduit un besoin de reconnaissance propre à des communautés aux réalités et aux cultures distinctes. Ces symboles sont autant de moyens de créer du lien que de revendiquer une place unique dans un ensemble souvent amalgamé. Certaines icônes ont même nourri des formes de résistance ou d'orgueil spécifiques. Par exemple, le drapeau bisexuel, créé par Michael Page en 1998, répondait à l'invisibilisation des personnes bi dans les espaces gays et lesbiens. Le drapeau trans, dessiné par Monica Helms en 1999, repose sur un jeu de symétrie. Peu importe dans quel sens on le tient, il reste lisible. Une métaphore puissante de la légitimité du genre, quelle que soit sa direction. La charge affective des symboles. Au-delà de leur fonction identitaire ou politique, ces symboles possèdent aussi une portée affective. Porter un pin du drapeau trans ou afficher un autocollant arc-en-ciel sur sa voiture, ce n'est pas juste une déclaration publique. C'est une manière de se protéger, de se reconnaître entre pairs, de trouver du réconfort, parfois dans des environnements hostiles. Ces marques visuelles sont aussi essentielles pour les jeunes en questionnement. Un simple drapeau aperçu dans une vitrine, une bibliothèque ou une école peut faire toute la différence. Il envoie le message que tu n'es pas seul, que tu peux être toi-même, que tu es bienvenu ici. Une culture vivante, une fierté mouvante. Aujourd'hui, les drapeaux et symboles LGBTQ+ continuent d'évoluer. De nouvelles couleurs sont ajoutées pour reconnaître les réalités racisées, les personnes intersexes ou neurodivergentes. On débat, on crée, on nuance. Parce qu'un symbole vivant n'est jamais figé. Il se transforme avec sa communauté. Ce que tous ces symboles ont en commun, il raconte l'histoire d'un combat pour être vu, entendu, accepté. L'histoire d'un arc-en-ciel aux mille couleurs, façonné par celles et ceux qui ont refusé de rester dans l'ombre. C'était Expo, la fierté à ses drapeaux, un texte d'Yves Lafontaine paru le 31 juillet 2025 dans le magazine Fugue.